Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour, je vais faire la polémique aujourd'hui, je vous savez que j'adore ça, n'est-ce pas? Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la Tour INSEE, vous savez pas? Eh bien, on va vous expliquer. Bonjour, donc Jérôme Marin aujourd'hui, architecte, enseignant, bonjour Jérôme.
Bonjour Myriam.
Sarah Tartarin, bonjour, bonjour. Ingénieur environnemental, bonjour Sarah.
Bonjour.
Alors, la Tour INSEE, nous sommes, nous, des franciliens, donc nous avons normalement, sur cette radio, entendu parler, mais je vais surtout laisser mes invités en parler. Alors, racontez-moi un peu le contexte. Nous sommes sur un énorme bâtiment, tripode, au bord du périph', la jonction entre deux villes, Paris-Malakoff. Pourquoi tout le monde s'intéresse à cette tour? C'est une tour comme les autres, non?
Alors, c'est pas tout à fait une tour comme les autres, c'est une tour qui a d'abord accueilli pendant plus de 40 ans l'INSEE. L'INSEE, tout le monde connaît.
C'est un le recensement, ceux qui nous comptent.
Exactement.
Qui décident si on est mort ou vivant.
Tout à fait. Et donc, ce bâtiment, finalement, est désaffecté depuis 2016, puisque l'INSEE s'est déplacé à proximité, d'ailleurs, de Malakoff. Et donc, ce bâtiment est vide, maintenant, depuis quelques années. C'est une énorme structure. En fait, il faut savoir qu'il y a...
C'est vrai que c'est impressionnant.
Oui, c'est très impressionnant.
Quelques chiffres, hein.
Oui.
En mètres cubes, je ne sais pas, en étages, en mètres carrés.
Alors, plus de 50 000 mètres carrés de plancher.
Oui, formidable.
48 mètres de hauteur. Et puis surtout, un programme mixte, puisqu'il y avait au pied de cette tour une école, l'École nationale de statistique, qui était en lien direct avec l'INSEE, et donc aussi toute une partie de la population de Malakoff et des communes alentours a travaillé dans cette tour. Donc il y a aussi une mémoire liée à cet outil de travail, en quelque sorte, qu'était l'INSEE.
Alors, on va pas faire du passéisme, parce que c'est vrai que l'idée... Pour insuffler aux auditeurs l'envie d'aller se battre, parce que c'est quand même un peu ça l'idée. C'est un bâtiment, mais ce bâtiment, qu'est-ce que l'État a l'intention d'en faire, hein?
Alors l'État est
aujourd'hui il est vide.
Bien sûr.
Pendant quelques années, ils se sont posés la question quoi en faire. Depuis 2018, 2020, rien ne s'est passé. Et là, depuis 21, ça commence un peu à bouger. Et l'État a l'intention d'en faire quoi?
Alors l'État projette de démolir un bâtiment de bureau pour reconstruire en lieu et place. Autre bâtiment de bureau. Donc c'est une...
Avec autant de mètres carrés, moins, plus, c'est à peu près la même chose, hein?
Moins de mètres carrés, puisque le projet prévoit 32 000 mètres carrés de bureau. Donc c'est une vraie interrogation, et c'est un petit peu ce qui a été à l'origine de notre lutte pour éviter cette démolition. C'est pourquoi démolir pour reconstruire?
Alors, c'est là où Sarah, je vais vous interroger, parce que démolir, reconstruire, il y a de l'amiante, parce que dans tous ces bâtiments de cet âge-là, il y a quand même amiante, qui a dit amiante, dit décontamination. Et donc vous, en tant qu'ingénieur environnemental, vous avez quel sentiment par rapport à cette démolition?
Un sentiment probablement un peu amer, mais en fait, la question de l'amiante, c'est un très bon sujet. L'idée, c'est que quand on veut démolir un bâtiment... Avant tout, on le désamiante. Et une fois qu'il est désamianté, on commence à le démolir ou on commence à le réhabiliter.
Donc, oui, parce que de toute façon, le désamiantage, on doit le faire quoi qu'il arrive.
On doit le faire quoi qu'il arrive et surtout, on doit le faire avant de commencer à démolir quoi que ce soit. Donc là, le bâtiment actuellement est en cours de désamiantage. À la fin du désamiantage, l'État doit enfin se poser la question, ou même dès maintenant, bien sûr qu'il doit se poser la question, est-ce que je le démolis ou est-ce que je le réhabilite? Mais tant que le désamiantage n'est pas terminé, tout est encore possible.
Vous savez quoi, on a 6 mois pour faire des grandes manifs et
venez quand vous voulez
se mettre sur le terrain. Non, mais juste bien pour sûr, savoir un petit peu quel est le temps qu'il reste pour pouvoir éventuellement, je sais pas, insuffler dans les oreilles de l'État et des grands décideurs. Une réflexion sur la réhabilitation, sur la rénovation.
Mais cette réflexion, ils l'ont déjà. En fait, à un moment, il faut être très clair aussi sur ce dossier. Tout le monde sait que, du point de vue environnemental, il n'y a aucune raison de démolir des surfaces de bureaux pour reconstruire avec la même technique constructive les mêmes surfaces de bureaux.
Voire moins. Non, mais là, c'est moins.
Là, c'est
donc
un petit peu moins.
Donc, on pourrait très bien faire des 20 000 ou 18 000 mètres carrés restants. Autre chose.
Autre chose, oui.
Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à construire quand même.
Exactement. Et l'État est plus qu'au courant, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'environnement. Il y a eu les accords de Paris avec des enjeux à l'échelle de la France qui n'ont pas été tenus. La France est quand même le seul pays à ne pas avoir respecté les accords de Paris en Europe. Et pourtant, quand l'État décide de faire lui-même un bâtiment, au lieu de montrer l'exemple, il prend la plus mauvaise décision. Il prend une décision dont il faudra patienter 800 ans. Pour en avoir les bénéfices. 800 ans, c'est l'âge de Notre-Dame. L'État décide aujourd'hui que ce bâtiment, au bout de 40 ans, n'a plus de raison de vivre. Et pourtant, pour que son bâtiment devienne rentable...
On est jeune, hein ?
Exactement, à 40 ans, on est très jeune. Et l'État nous dit ce bâtiment sera rentable à long terme. Et les chiffres qu'il nous donne, quand on fait des courbes avec... C'est 800 ans pour que ce soit rentable.
Ah oui, le nouveau bâtiment.
Le nouveau bâtiment.
Non, mais indépendamment de la rentabilité, parce que ça, c'est un concept.
La rentabilité environnementale,
oui,
mais
oui,
si.
Oui, bien sûr.
Mais si mon bâtiment est mieux, ou au bout de 800 ans.
Alors, est-ce que demain, le bâtiment, il a la même forme, il est... c'est quoi, Jérôme, un peu la silhouette du futur bâtiment, s'il est construit, bien sûr.
Alors, le projet qu'envisage le ministère pose la question, en fait, de son insertion urbaine.
Hein,
parce
oui, c'est
que
ça.
Le bâtiment actuel, c'est une tour, donc il offre une perméabilité tout à fait intéressante entre Paris et la ville de Malakoff. Et le projet futur, on en a déjà...
Une tour en forme de tripode.
En forme de tripode,
donc,
bien sûr.
Ça, c'est important par rapport à l'orientation.
Tout à fait. Un tripode avec 9 orientations. Tour qui est proposée, c'est un parallélépipède.
Il y a 4 points cardinaux, rassurez-moi quand même.
D'accord. Mais le projet proposé, c'est un parallélépipède qui n'offrira que 4 orientations. Et si on veut un petit peu avoir une idée de ce que sera ce projet...
Donc c'est une frontière. Quelque part, c'est une barre... Donc une frontière entre Malakoff et Paris.
C'est une barrière entre Malakoff et Paris. On en a un exemple le long du périphérique, en allant vers le sud. Tous les bâtiments de bureaux qui ont été construits le long du périphérique forment une barrière. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience.
C'est une barrière phonique. Quelque part, ça protège un petit peu les riverains alentour de l'autre côté du bruit du périph'.
Oui, mais en même temps, quand on sait ce que va devenir le périphérique dans années, il faut se projeter un petit peu à échéance. Et je voudrais revenir sur un sujet intéressant de la question de l'usage. En fait, on parlait tout à l'heure de la possibilité de transformer ces bâtiments. En fait, on a été recherche un petit peu de ce que pouvait devenir ce bâtiment. On a été en contact avec des étudiants qui ont travaillé sur la restructuration du bâtiment.
Et on est d'accord que les étudiants ont moins de 40 ans et l'avenir est devant.
Tout à fait.
Donc il faut les écouter.
Et ces étudiants extrêmement motivés ont proposé de nouveaux usages, par exemple une résidence universitaire en face d'un pôle universitaire avec un projet magnifique, programmes mixtes. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Quand on a beaucoup de surface, et si le ministère n'a pas nécessité à utiliser toutes ces surfaces...
Oui, parce qu'on peut laisser le ministère dans les 30 000. Ah, on ne va
exactement.
Pas les virer. Donc il en reste 20. Qu'est-ce qu'on fait des 20 000 ?
Eh bien, par exemple, l'utilisation des sous-sols. Aujourd'hui, on est à la recherche de locaux pour les data centers. Il faut savoir qu'un data center, ça produit une énergie
énorme.
Et que, en plus, les ministères ont quelques données, surtout le ministère de la Santé, à stocker. Il se trouve qu'on a une surface de sous-sol proche de 15 000 m² qui est là et qui sera, dans le projet futur, malheureusement broyée. On se demande, quelque part...
Parce qu'il n'y a pas de sous-sol dans le projet futur ?
Alors, dans le projet futur...
J'ai cru comprendre que tout ça a été construit quand même sur un gruyère, hein, et que quelque part, il y avait eu des injections et des coûts énormes, il y a 40 ans, lors de la construction.
Alors, dans le cadre d'un projet de reconstruction, malheureusement... Il est très rare qu'on réutilise les fondations existantes. D'abord parce que l'emprise du bâtiment n'est pas du tout la
même.
Et qu'aujourd'hui, les besoins en sous-sol de l'État ont diminué puisqu'ils proposent seulement 100 places de parking pour un ancien parking qui en comptait plus de 400.
Ce qui est quand même très intéressant aussi, justement, dans cette histoire de comment va être le futur bâtiment, c'est qu'il n'est pas implanté du tout au même endroit. Et donc, en fait, le site de l'INSEE, on avait une forêt, une petite forêt, un petit bois, un ensemble boisé, contre le périphérique et ensuite le bâtiment. Le projet futur a consisté à, dès le premier jour de prise de possession du terrain par l'entreprise, à raser ce petit bois pour pouvoir y mettre son projet. Le problème, c'est qu'en plus, donc déjà, en fait, on imperméabilise les terres.
Et à ce moment-là, personne n'a bougé ?
Ça a pris 2 heures. C'est très rapide. Et c'est surtout qu'à l'arrière de ce bâtiment, il n'y aura pas de jardin de pleine terre. La pleine terre, c'est là où poussent vraiment les arbres, où tout se développe. Donc on est dans une situation en Île-de-France où on dit on densifie trop, on n'a plus assez d'espace vert, etc. Et encore une fois, l'État se dit, tiens, j'avais un bâtiment qui pouvait accueillir tout ce dont j'avais besoin, avec un très beau jardin de pleine terre, avec des arbres de grande envergure. Je rase tout pour faire un bâtiment qui fait frontière, qui a des soucis d'orientation, qui est plus cher, plus carboné, et en plus, il enlève toute la pleine terre. Pourtant, à cet endroit, dès qu'il pleut, il y a 30 cm d'eau sur l'échangeur du périph. Pourquoi ? Parce que le quartier est trop imperméabilisé. Mmh. Et ce projet va imperméabiliser encore davantage.
Parce que derrière leur barre, hein, ils ont l'intention de faire quoi ? Une dalle
Un sous-sol. Il y en a quand même un qui prendra la totalité de l'emprise. Et là-dessus, un petit peu de terre pour mettre des buissons.
Donc, mais il y a une grande place, parce que le tripode, il prend... Il y a quand même une emprise plus importante.
Ils ont réservé une parcelle derrière qui est censée être restituée à la mairie. Mais la mairie n'a dit qu'elle n'était pas forcément intéressée. Elle, aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est la réhabilitation de ce bâtiment.
Bon, je suis désolée, on va devoir là refaire une autre émission, parce qu'au fond, on n'a pas parlé de la politique, hein, n'est-ce pas ? C'est le nerf de la guerre. Hein. À bientôt, chers auditeurs, hein, sur nos antennes, pour l'émission numéro 2, INSEE. Au revoir.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.